Radio Classique, les spécialistes.
7h40 sur Radio Classique, gros plan ce matin sur la défense française avec la loi de programmation militaire, une loi présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. L'enveloppe pour les 7 ans qui viennent est fixée à 400 milliards d'euros. Bonjour Thomas Gomard.
Bonjour monsieur.
Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. 400 milliards assurent les échos ce matin. C'est une enveloppe qui permet de poursuivre la modernisation des armées, pas de l'accélérer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, je la partage. La particularité de la double présidence d'Emmanuel Macron, c'est, à la différence de ses quatre prédécesseurs, d'avoir relancé la dépense militaire. Mais en réalité, nous sortons de plusieurs décennies de désarmement structurel en France comme en Europe d'ailleurs. Et la vraie rupture, ça a été la décision en 2017 d'arrêter l'érosion. Enfin, c'était plus qu'une érosion, c'était une érosion très accélérée et de repartir à la hausse. Et le projet qui s'annonce pour 2024-2030 confirme cette tendance dans un contexte de très forte dégradation de notre environnement stratégique.
Alors effectivement, en 2017, je crois que le budget de l'armée, enfin des armées, était de 32 milliards. Il sera de 69 milliards en 2030. Thomas Gomard, est-ce que la guerre en Ukraine a accéléré une prise de conscience, même si on voit que les chiffres avaient commencé dès 2017, est-ce qu'elle a accéléré cette prise de conscience au sommet de l'État ?
Oui et non. Alors oui, parce qu'on peut se dire que sans la guerre d'Ukraine, l'effort aurait probablement été moins soutenu. Non, dans la mesure où, on vient de le rappeler, la tendance à la hausse avait été décidée dès 2017, parce qu'au fond, la dégradation du contexte stratégique, elle est notable et elle ne s'explique pas simplement par la guerre d'Ukraine. Je rappelle qu'on avait eu un engagement important au Mali. On a eu aussi les conséquences des attaques terroristes sur le territoire national après 2015, et ce qu'on appelle la compétition de puissance, et notamment entre la Chine et les États-Unis et leurs effets indirects, ce sont des choses qui sont antérieures à la phase actuelle.
On entend beaucoup de militaires dire « il faut réparer nos armées ». Ça veut dire quoi, très concrètement ?
Ça veut dire que la grande difficulté, si vous voulez, dans laquelle on est, c'est que vous avez un retour de l'inflation, vous avez un contexte, comme j'ai dit déjà, de dégradation stratégique. Et donc, la très grande difficulté, c'est qu'on demande à la nation un effort majeur. Ça représente à peu près plus de 100 milliards en plus par rapport, sur la durée, sur les 7 ans, oui, par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Et les effets produits, pour utiliser un terme militaire, sont que si tout se passe bien, et c'est un très gros si, en fait, nos armées resteront à peu près au même étiage. Pourquoi ? Parce que vous ne rattrapez jamais, en très peu de temps, des décennies de désarmement. Et donc, nous sommes aussi, je dirais, dans une situation où les armées ont subi le fait que les quatre prédécesseurs d'Emmanuel Macron, encore une fois, on dilapidait ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Quand vous désarmez pendant plusieurs décennies, vous ne pouvez jamais rattraper ça en période de crise, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous ajoutez le contexte d'inflation qui revient.
Oui.
Et cet effort majeur va être en grande partie, je dirais, mangé. Et si on parvient à maintenir le niveau qui est le nôtre, ce sera en quelque sorte une prouesse. Ce que je décris là, on peut l'observer également dans l'effort allemand qui met également sur la table à peu près 100 milliards, qui part de beaucoup plus bas que nous. Au fond, les Français sont les seuls à avoir commencé à réarmer il y a 5 ans, alors que les autres Européens commencent à le faire.
Retrouver de la quantité, disent également beaucoup d'officiers en parlant des chars, en parlant des avions. Il y a un manque pour vous, Thomas Gomard ?
Ah oui, c'est évident. Comme un pays comme la France, si vous les comptez, un parc à peu près de 200, un peu plus de 200 chars.
Oui.
Voilà, un pays comme la Pologne en compte 1000, à peu près un millier. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Si vous voulez, ce qui s'est construit au fil des années, c'est ce qu'on a appelé une armée échantillonnaire, c'est-à-dire que présente sur l'ensemble des segments dits de haute intensité, c'est-à-dire la capacité notamment d'entrer en premier sur un théâtre, d'utiliser des aéronefs ultra performants type Rafale. Enfin, je vais pas tout décliner, donc vous avez ça, mais vous l'avez en fait de manière échantillonnaire, ce qui fait que en cas de choc aigu, Oui. Nous avons une armée qui est taillée pour tenir quelques jours en réalité. À cela s'ajoute ce qui a été découvert grâce à la guerre d'Ukraine. C'est la situation assez préoccupante, et le AC étant très préoccupante de nos stocks. Et de stocks de munitions. Et donc, il y a un effort aussi dans le cadre de cette prochaine LPM de reconstitution de stocks pour, comme disent les militaires, gagner en épaisseur.
Alors, on a eu la confirmation d'un nouveau porte-avions nucléaire français, 10 milliards, hein, apparemment, opérationnel en 2036, début des travaux dans deux ans. C'est absolument nécessaire pour vous, Thomas Gomard ?
Alors, il faut bien comprendre deux choses. La première, c'est que vous avez un choix historique fait par la France depuis le général de Gaulle, et d'ailleurs qui explique notre organisation constitutionnelle, qui repose sur la dissuasion nucléaire. Et que cette dissuasion nucléaire, elle tire par le haut l'ensemble du champ technologique depuis plusieurs décennies. Que par ailleurs, vous avez eu toutes ces hésitations depuis là aussi plus de 10 ans, 20 ans quasiment, sur notre politique nucléaire civile. Bon. Et donc, la loi de programmation militaire réaffirme notre effort historique dans le domaine du nucléaire militaire, et parallèlement, on a ce choix du retour vers le nucléaire civil. Il y a une composante qui est aussi liée à la capacité de propulsion nucléaire, que ce soit pour nos sous-marins d'attaque ou pour nos sous-marins lanceurs d'engins et pour le porte-avions. Et c'est un savoir-faire, si vous voulez, pour le porte-avions. Il y a deux pays qui sont capables de faire ça. Il y a les États-Unis et la France.
Ouais.
Donc, il y a une dimension, si vous voulez, technologique de savoir-faire qui, à mon avis, explique cette décision. Et par ailleurs, un porte-avions, si vous voulez, c'est une capacité de projeter de la force, évidemment, loin du territoire national. C'est un système extrêmement complexe. C'est là aussi un savoir-faire qui s'acquiert après des décennies. C'est-à-dire qu'arriver à construire un porte-avions et surtout à savoir s'en servir, à faire la guerre à partir d'un porte-avions, c'est un savoir-faire qui peut se perdre très vite, mais que vous mettez des décennies à construire. Et donc, dans la logique de trouver un successeur au Charles de Gaulle, il y a cette logique de maintenir une capacité qui est une capacité dont très peu de pays disposent.
400 milliards hein, sur 7 ans, il va falloir trouver une majorité aussi à l'Assemblée pour voter ce texte. On sait que la gauche est contre un tel budget. À votre avis, ça va passer facilement ?
Bon, ça, très franchement, je l'ignore parce que j'ai renoncé à comprendre la vie parlementaire française dans le contexte actuel. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est qu'il y a deux choses importantes. Il y a, à mon avis, une nécessité de débat dans le cadre parlementaire, évidemment, mais au-delà, parce qu'on ne peut pas demander un effort aussi considérable à la nation, 413 milliards, sans débat.
Oui.
Et que ce débat doit permettre de, aussi, à mon sens, faire comprendre à nos concitoyens la dégradation de l'environnement stratégique que j'évoquais. Bon. La deuxième remarque, c'est que traditionnellement, les questions de défense sont à l'origine d'une forme de consensus transpartisan en France, notamment avec le choix du nucléaire qui, je crois que toutes les forces politiques, à quelques exceptions près, l'ont bien compris, qui est la garantie d'une indépendance à laquelle l'ensemble des forces françaises sont très heureuses de se rattacher ou qu'elles sont très heureuses d'évoquer, si vous voulez, régulièrement. Donc je pense qu'il va y avoir débat. Il y a un contexte en France particulier lié notamment à la réforme des retraites ou à l'attitude vis-à-vis du président et du gouvernement d'Elisabeth Borne. Cela étant, sur un sujet de cette importance, il y a probablement des formes de consensus possibles.
Merci Thomas Gomard d'avoir répondu à mes questions, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, Marc qui s'intéresse ce matin à une adresse, à un lieu devenu mythique dans l'histoire de la chanson française. De qui s'agit-il ? Suspense une nouvelle fois insoutenable et réponse dans moins d'une minute.